Et le journal, c'est avec Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une fois de plus, en Grèce, le Premier ministre Alexis Tsipras a dû compter sur les voix de l'opposition pour faire adopter au Parlement les réformes demandées par les créanciers du pays, avant de discuter d'un troisième plan de sauvetage. Nous irons à Athènes dans ce journal et nous interrogerons l'économiste Norbert Gaillard sur l'efficacité d'une nouvelle aide internationale.
Et puis direction la Turquie également, où les rebelles du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, ont tué hier deux policiers. Le PKK les accuse d'avoir collaboré avec le groupe État islamique à qui l'on attribue un attentat suicide contre des militants pro-kurdes il y a deux jours.
Les aides d'urgence annoncées hier par le gouvernement pour aider les filières bovines, porcines et laitières peinent à convaincre. Barrage routier ce matin autour de Lyon. Action contre une laiterie dans l'Isère. Le puissant syndicat FNSEA se félicite certes de l'engagement des pouvoirs publics, mais regrette l'absence de mesures jugées fortes sur les prix d'achat de la viande et du lait. Après des heures et des heures de débats où le Parlement grec a donc adopté la nuit dernière le deuxième volet de réformes exigées par les créanciers du pays, préalable à un troisième plan d'aide, à un éventuel troisième plan d'aide international, 230 députés sur 300 ont voté la réforme du système bancaire et de la procédure civile. Comme la semaine dernière, le texte n'a pu passer que grâce aux voix de l'opposition. 36 députés Syriza ont fait défection au Premier ministre Alexis Tsipras. C'est 3 de moins que la semaine dernière, et donc une toute petite victoire pour le Premier ministre. Géraldine Allot est à Athènes pour France Culture.
Il est 4 heures à Athènes. Après 6 heures de débats houleux, les députés se prononcent enfin sur le projet de loi. Une écrasante majorité de 230 députés vote en faveur des nouvelles mesures exigées par les créanciers. Mais dans les rangs de Syriza, on enregistre encore de nombreuses défections. Et c'est grâce aux voix de l'opposition que le texte est adopté. Simos Kedikoglou, du parti de droite Nouvelle Démocratie, s'en réjouit.
Le problème de Syriza ne peut pas devenir de problème national. On souhaite que M. Tsipras trouvera une solution avec ses camarades, mais pour nous, pour la Grèce, il n'y a pas de problème. Il y a une majorité claire pour la Grèce dans l'Europe.
Alexis Tsipras peut-il gouverner encore longtemps avec cette majorité bancale au Parlement? Le député Syriza, Petros Konstantineas, botte en touche.
Syriza est le parti le plus démocratique qui soit. Le gouvernement doit continuer à faire voter les mesures nécessaires pour signer un accord avec l'Union européenne. La question des élections anticipées se posera plus tard.
Après ce vote positif au Parlement, les négociations avec l'Union européenne sur le troisième plan d'aide peuvent s'ouvrir. Ce sera sans doute vendredi.
Car demain, des représentants des créanciers sont attendus à Athènes, des membres de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. Ils doivent rencontrer des membres du gouvernement de Tsipras. La Grèce espère boucler les négociations d'ici le 20 août, date d'une importante échéance de remboursement à la BCE, plus de 3 milliards d'euros. D'après l'économiste Norbert Gaillard, un accord sera sans doute trouvé pour aboutir à un troisième plan d'aide international, mais cela ne garantit pas son succès par la suite.
On peut arriver à cet accord, je pense qu'on y arrivera plus ou moins, mais au-delà, on a un vrai problème qui se pose pour la Grèce, à savoir qu'on a un nouveau train de mesures d'austérité dans les prochaines semaines, mais d'un autre côté, on sait qu'il y a des remboursements à effectuer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui sont considérables. Il y a un autre aspect qui est assez inquiétant, qui est lié au programme de privatisation. L'objectif est d'arriver à 50 milliards de privatisation. C'est un montant considérable qui, à la fois, peut donner l'impression aux Grecs qu'ils vont être complètement spoliés, que finalement les créanciers vont se tailler, comme on dit, sur la bête, parce qu'on se rendra compte que le plan lui-même n'est pas tenable, parce que la dette elle-même n'est pas soutenable.
L'économiste Norbert Gaillard, joint par Jean-Marc Chardon. Des attentats attribués aux islamistes du groupe Boko Haram ont tué 42 personnes hier au Nigeria, 11 autres au Cameroun. De telles attaques suicides en territoire camerounais sont sans précédent, même si depuis deux ans, les islamistes nigérians enchaînent les raids de meurtriers et les enlèvements dans l'extrême nord du Cameroun. La rébellion kurde du PKK a revendiqué l'assassinat hier matin dans la ville de Ceylanpınar, à la frontière syrienne, de deux policiers turcs, deux hommes accusés de collaborer avec l'organisation l'organisation État islamique qui est fortement soupçonnée d'avoir commandité un attentat à la bombe. C'était il y a 2 jours, également près de la frontière syrienne. 32 personnes tuées, dont des étudiants kurdes. Ces représailles, hier, du PKK pourraient remettre en cause la paix fragile entre les rebelles kurdes et l'État turc. La correspondance à Istanbul de Jérôme Bastion.
Ce n'était pas une opération militaire classique, mais plutôt une mission de type service secret. Les deux policiers ont reçu dans leur lit chacun une balle tirée dans la nuque, au silencieux. C'est donc une exécution très professionnelle qui se veut punitive, explique le communiqué du HPG, les forces de défense populaire, c'est-à-dire l'aile militaire du PKK. Menée en représailles à l'attentat de Suruç, le PKK précise que l'opération de cette unité d'élite, dite des combattants d'APO, du nom du chef de la rébellion, Abdullah Öcalan, n'a fait l'accuser de son droit à l'autodéfense, poursuit le communiqué, qui souligne également que ce double assassinat ne remet pas en cause le cessez-le-feu en vigueur officiellement depuis le printemps 2013. Malgré des accrocs de plus en plus nombreux ces derniers temps, encore lundi, un soldat turc avait trouvé la mort dans un accrochage avec des rebelles, cette opération ne serait donc pas une déclaration de guerre envoyée à Ankara. Malgré la multiplication des incidents armés depuis quelques mois, et malgré surtout la rupture des négociations de paix entamées il y a plus de 2 ans, la rébellion, qui a toujours dit que s'il y avait rupture de la trêve, ce ne serait pas de son fait, semble tenir au maintien du statu quo. Le parti pro-kurde HDP ne cesse d'ailleurs, surtout depuis les élections du 7 juin, de réclamer la relance du processus de dialogue, sans réponse de la part du gouvernement. Mais la violence croissante, sur fond de montée en puissance de l'État islamique en Turquie même, menace de plus en plus cette paix fragile.
Jérôme Bastion à Istanbul pour France Culture. La Maison Blanche l'assure, la fermeture de Guantanamo est peut-être toute proche. Washington indique mettre la dernière main à un plan de fermeture de la prison controversée située à la pointe orientale de Cuba. Plusieurs centaines d'hommes y sont enfermés depuis 13 ans, sans inculpation ni procès. Il y a un an, l'accord de Brazzaville mettait théoriquement fin à la guerre civile en Centrafrique, une guerre commencée fin 2012. En mars 2013, le pays basculait dans le chaos. Le président François Bozizé était renversé par Michel Djotodia à la tête d'une rébellion à dominante musulmane, la Séléka. Les exactions commises par cette Séléka ont ensuite débouché sur la création de milices chrétiennes, les anti-Balaka, qui s'en sont pris aux civils musulmans, des violences interreligieuses qui ont fait des milliers de victimes. Un an plus tard, alors que les casques bleus ont pris le relais de la force française Tangaris, la situation est loin d'être revenue à la normale, Claude Guibal.
À en croire les diplomates, un an après les accords de Brazzaville, la Centrafrique serait revenue à un niveau de violence acceptable. Bel euphémisme pour masquer une réalité autrement moins glorieuse. À Bangui, l'insécurité demeure, les quartiers musulmans ont quasiment été vidés de leur population. Une bonne partie du pays vit toujours sous la coupe de bandes armées. 3 fois reportées, les élections censées marquer le retour à la normale sont prévues pour octobre. Léger souci là encore, les autorités centrafricaines refusent qu'y participent les centaines de milliers de personnes qui ont fui la Centrafrique et se sont réfugiées dans les pays voisins. 1,5 million de personnes, 10% de la population, des réfugiés qui sont à 90% des musulmans. De quoi faire bondir le Haut Commissariat aux réfugiés qui émet donc les plus grands doutes sur la valeur d'un scrutin qui exclut une si grande partie de la population. Il y a quelques jours, les autorités centrafricaines ont annoncé un calendrier ambitieux pour octobre. Référendum constitutionnel, législatif, présidentiel. Le recensement a commencé, mais le processus est plus qu'aléatoire dans un pays où l'État est inexistant, où les structures institutionnelles ne sont que des coquilles vides et où les routes, déjà rares, sont en état catastrophique et ne permettent donc que difficilement de rallier les provinces éloignées. Pression supplémentaire, le pape François, il a annoncé sa visite à Bangui pour la fin octobre, juste après les élections.
Ils assurent le service après-vente du plan d'urgence pour aider les éleveurs. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé ce matin chez nos confrères d'RTL la généralisation de l'approvisionnement local dans les restaurations collectives d'État. Et puis François Hollande est attendu de pied ferme ce matin à Dijon. Déplacement initialement consacré à la viticulture. Le chef de l'État se rendra aussi en préfecture pour rencontrer notamment Jean-Pierre Fleury, éleveur en Côte d'Or, mais surtout président de la Fédération nationale bovine. Hier, hier, le gouvernement a proposé un plan d'urgence de plus de 600 millions d'euros. Une exploitation sur 10 est menacée de faillite en France. Il s'agit donc d'aider ces éleveurs en difficulté. Des mesures pour desserrer les taux de la dette, pour alléger ou reporter des cotisations sociales, pour promouvoir l'exportation. Cela n'a pas convaincu les éleveurs de Rhône-Alpes qui bloquent ce matin avec 300 tracteurs les entrées autour de Lyon. Quant au principal syndicat agricole, la FNSEA, il salue l'engagement des pouvoirs publics, mais pour l'organisation, le verre est à moitié vide. En cause, l'absence de mesures jugées fortes sur les prix d'achat de la viande et du lait Anne-Laure Chouin.
Sur les mesures dites conjoncturelles, ils sont à peu près unanimes. Elles étaient indispensables et vont pouvoir donner un peu d'air. On parle ici des allègements de charges divers et de l'aide aux banques qui vont suspendre ou restructurer les dettes des éleveurs les plus endettés. Mais sur le cœur du problème, en tout cas tel que présenté pendant ce conflit, la rémunération des éleveurs, les réactions sont nettement moins positives. Patrick Bénézy est éleveur bovin, il dirige la FDSEA du Cantal.
Le compte n'y est pas encore. Il y a besoin effectivement de mesures qui arrivent à contraindre la grande distribution et les transformateurs, même si toutes les solutions ne sont pas forcément permises aujourd'hui dans le cadre communautaire. Ce sont les seules solutions qui permettront d'arriver à des prix rémunérateurs. Parce que même si les agriculteurs sont organisés en quelques groupements de producteurs ou autres, à partir du moment où vous avez quatre centrales d'achat, on ne sera jamais assez bien organisé pour résister à tout ça.
L'action gouvernementale sur les prix est à minima et ne permettra pas de résoudre la crise structurelle de l'élevage en France. Sur ce point, la Confédération paysanne est d'accord. Josian Palacher, producteur laitier, lui, membre de la Confédération et du Centre interprofessionnel des produits laitiers, selon lui, sans intervention des pouvoirs publics sur le marché, rien ne pourra être résolu.
On est actuellement dans l'Europe sur une volonté très forte de libéraliser tout et de dire c'est le marché qui va faire que les paysans ils vont faire telle production ou telle autre, qui vont se réorienter en fonction de la demande du marché. Et nous, on revendique effectivement sur les pouvoirs publics qui soient à mesure d'orienter et de réguler la production.
Des mesures d'urgence qui permettront juste d'attendre la prochaine crise, c'est en résumé le sentiment ce matin des syndicats d'agriculteurs.
Des mesures d'urgence surveillées de très près par la Commission européenne. Objectif, savoir si ces aides annoncées hier par le gouvernement français sont compatibles avec la politique agricole commune. Les explications de Pierre Benazé à Bruxelles.
Pour l'instant, la Commission européenne a juste été informée par la France des mesures d'aide adoptées par le gouvernement. Elle se refuse à les commenter, même si le type d'aide choisi semble de prime abord compatible avec les règles de la politique agricole commune. Les pays de l'Union ont une certaine marge de manœuvre pour répartir les aides de la PAC, et le commissaire européen, Pierre Moscovici, a fait savoir qu'elle peut parfaitement être utilisée, si besoin, pour soutenir les efforts du gouvernement français.
La nouvelle PAC, là, n'est pas un problème. Elle est un encouragement, un facilitateur, parce qu'elle contient de nouveaux outils qui rendent possible la négociation collective, notamment dans le cadre de la filière bovine, ceci afin de renforcer la capacité de négociation des producteurs, des éleveurs, vis-à-vis des autres maillons de la chaîne. La Commission invite donc les éleveurs à examiner ces nouveaux outils avec attention, à s'organiser pour en profiter, et elle est prête à soutenir les éleveurs dans cette démarche.
En revanche, la PAC ne permet pas pour l'instant une intervention publique, c'est-à-dire un achat par les autorités, car cette mesure ne peut être déclenchée que si le prix de vente est inférieur à 85% du prix européen de référence. Or, ce prix de référence est inférieur au prix français, et le montant de cet achat public serait de toute façon inférieur de moitié au prix du marché français de la viande bovine. Tant que la Commission européenne ne propose pas de mesures pour l'ensemble des agriculteurs européens, le gouvernement français paraît donc libre de gérer comme il l'entend la réponse à la crise de l'élevage.
Pierre Benazé à Bruxelles pour France Culture. Pour la première fois, des carences dans la prise en charge d'enfants autistes ont été reconnues par la justice. Le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français à verser 240 000 euros de dommages à 7 familles dont les enfants n'ont pas pu être scolarisés normalement dans l'Hexagone, faute d'accueil adapté. Deux de ces familles ont dû placer leurs enfants dans des instituts spécialisés en Belgique. Préjudice moral, a reconnu le tribunal. La famille de Vincent Lambert est attendue à 14h au CHU de Reims, où les médecins rendront leur décision sur un probable arrêt des traitements et un accompagnement vers la mort du patient. L'homme de 38 ans, dans un état végétatif, souffre de lésions cérébrales irréversibles après un accident de la route en 2008. Qu'importe si le Sénat a supprimé hier en commission l'introduction de paquets de cigarettes neutres sans logo. C'était la mesure phare du projet de loi santé de Marisol Touraine pour lutter contre le tabagisme, auquel sont également opposés des buralistes, plusieurs centaines manifestées hier près du Palais du Luxembourg. Le principe de paquet neutre sera reproposé au Sénat en septembre prochain, sous la forme d'un amendement déposé par le gouvernement. En cas de nouveau rejet du Sénat, majoritairement à droite, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Les députés ont définitivement adopté hier la loi sur la transition énergétique à 5 mois de la COP21, la conférence internationale sur le climat qui se tiendra à Paris. La loi sur la transition énergétique traduit notamment la promesse de François Hollande de réduire de 75% à 50% la part du nucléaire dans la production électrique à l'horizon 2025. Le temps de ce jeudi 23 juillet, le soleil va l'emporter aujourd'hui. Des risques d'orages des Pyrénées au nord-est, en passant par le Massif central, risque d'averses également en PACA et sur le relief corse. Les températures plus raisonnables que ces derniers jours. Au meilleur de la journée, il fera entre 19 et 25 degrés dans un large quart nord-ouest du pays, 25 à 30 du sud-ouest au nord-est en passant par le centre, 30 à 34 degrés autour de la Méditerranée, Nicolas.
C'était le journal de Catherine Dutu. On vous retrouve tout à l'heure, Catherine, pour la prochaine édition. Ce sera à 9h.